L'avocat des terreurs. Alexandre est un jeune avocat au barreau de Paris. À partir de 2015, il commence à défendre des radicalisés djihadistes. Épisode 5, la part des femmes.
En 2014-2013, sur les retours de Syrie, seuls les hommes étaient poursuivis. En tout cas, dans ces années-là, il y a eu des dossiers de filière, la filière de Strasbourg, filière de Lens, filière d'Elbi, les femmes étaient extrêmement rarement poursuivies. Alors même que dans les dossiers, on voyait que Machin était parti avec sa femme et ses deux enfants, et puis revenu, et il n'y avait que Machin qui était poursuivi. Alors c'est vrai que nous, en tant qu'avocats, ça nous choquait. D'ailleurs, on le disait en plaidant, on disait, bon, on ne va pas demander des poursuites pour la femme des gens, mais c'était très compliqué de comprendre pourquoi il y avait deux poids, deux mesures. Alors au début, le parquet, le tribunal faisaient la distinction en disant que les hommes qui allaient là-bas, ils devenaient automatiquement des combattants et que les femmes et les enfants, par un effet un peu de misogynie judiciaire, on considérait qu'ils étaient moins peut-être responsables. Bon, toute cette distinction subtile de praticien s'est effondrée avec la commission d'attentats en France et en particulier avec certains attentats commis ou préparés par des femmes. Et là, depuis 2015, ils ont poursuivi tout le monde, les femmes qui projettent de partir, qui tentent de partir, qui reviennent de Syrie sont poursuivies au même titre que les hommes et sont condamnées à des peines quasiment équivalentes à celles des hommes.
Justement, il y a une audience en première instance du cas d'une jeune femme condamnée pour financement du terrorisme. J'arrive donc au nouveau palais de justice à Porte de Clichy, alors que l'audience s'apprête à commencer. Le nouveau palais de justice, de l'extérieur, c'est une immense façade de miroir. On entre en passant les contrôles comme dans les aéroports. Puis on arrive dans l'immense hall, un cœur d'où partent de part et d'autre des ascenseurs comme des artères jusqu'aux différents étages, vers les salles d'audience.
C'est le dernier jour ?
C'est ça, ouais. Heureusement. On va boucler ces 3 années pratiquement. J'ai peur de repartir en prison. J'ai déjà fait quand même presque 3 mois, donc ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. Peut-être séparer les enfants, c'est ce qui m'angoisse. Farida, et j'ai 34 ans. Mon frère est parti en Libye, et donc on m'accuse de l'avoir incité, encouragé et aussi financé. Dans la pratique de la religion, comme je disais à mon SPIP ou à la justice, c'est vrai que moi, je n'ai jamais changé ma manière de me comporter. Ma manière de me voiler, ça a toujours été la même. Ma pratique se limite à la prière au Ramadan et à ma foi intérieure. Donc ça, mon rapport aux autres n'a absolument pas changé. J'ai des amis voilés et non voilés. Par contre, il est vrai que oui, si Chaïm n'avait pas été dans cette mouvance-là, je ne me serais jamais intéressée à l'EI. J'en aurais entendu parler à la télé, mais c'était suffisant. Et lui m'a été plus en profondeur en montrant que c'était des gens bien, donc il me montrait uniquement ce qu'eux faisaient de bien. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force d'entendre ça tous les jours, on finit par se dire que c'est peut-être vrai. Et puis j'avais quand même du respect pour mon grand frère qui a toujours été là pour moi dans les moments difficiles, et même plus, c'est celui qui m'a le plus soutenu. Donc quand mon mari était malade, il était présent. Donc quelque part, je lui ai donné du crédit par rapport à ce comportement qu'il avait avec moi. Les policiers ont débarqué à la maison à 6h du matin au mois de septembre 2016. Ça a été dur, ça a été choquant. Pour les enfants surtout. Donc après, bon, ça a été bien fait puisqu'ils les ont d'abord fait sortir. Bon, j'ai été menottée, il y a mon grand qui m'a vue comme ça. Ça a été. J'ai essayé de garder le sourire devant lui. J'allaitais ma petite dernière en plus, donc ça aussi, ça a été dur de me dire qu'elle aurait pu ce lien avec moi. Je pensais rentrer après la garde à vue. Donc je suis partie en garde à vue à Lille, ensuite à Paris. Et à la fin de la garde à vue, j'ai été mise en détention à Fleury-Mérogis pendant près de 3 mois.
Dans le dossier d'instruction de Farida, il est écrit.
Pour mémoire, était découvert au domicile de Chaïb un courrier mentionnant deux numéros égyptiens et dans lequel Farida exhortait son frère à « défendre nos frères et sœurs, car l'islam a été bafoué, il est temps de lui rendre son honneur, il est temps de se battre pour Allah et son messager. J'espère vivre cette époque où l'islam sera la religion du monde et j'espère que nous serons tous ensemble. Mais par-dessus tout, j'espère qu'Allah acceptera ton sacrifice et qu'il t'accordera la récompense la plus haute. » Des 425, c'est les deux.
Les policiers n'ont pas été méchants, ont fait leur travail correctement. Je ne me suis pas sentie agressée ni quoi que ce soit. Parfois, on m'enlevait même les menottes parce que voilà, finalement, ils se sont rendus compte que je n'allais pas partir ou faire quelque chose de violent. Donc ça, déjà, c'était rassurant. Et les questions qu'on me pose, c'est par rapport à ce qui est trouvé chez moi et par rapport au départ de Chaïb, par rapport à ce qui a été trouvé sur les comptes bancaires. Donc on essaie de répondre à toutes ces questions. Ça a duré du mardi jusqu'au vendredi, près de 4 jours. La journée, donc les interrogatoires, et la nuit, retour en cellule, sauf quand on est arrivé à Paris où il y a eu des interrogatoires pendant la nuit aussi, alors qu'on est fatigué, qu'on n'a pas pu prendre de douche, qu'on est enfermé, qu'on dort sur un banc sans couverture, c'est assez imposant. On a envie de craquer, mais il faut tenir. On sait qu'il y a les enfants qui sont à l'extérieur, qui nous attendent, donc on tient le coup. Je rencontre mon avocate au moment où je suis renvoyée devant le juge pour la mise en détention. Donc c'est là que je rencontre mon avocate. J'avais un avocat quand j'étais à Lille, mais je n'ai pas souhaité rester avec lui.
Alexandre, notre avocat, avait, lui, été appelé par des parents affolés alors que leur fille de 18 ans était elle aussi interpellée.
Juste après les annonces de Charlie Hebdo, j'ai eu le cas d'une jeune femme qui avait aidé son cousin à partir en Syrie.
Juste avant la présentation au juge d'instruction, il fait sa contre-enquête avec les quelques éléments à sa disposition.
Cette jeune femme, la question se posait de savoir si elle était elle aussi radicalisée. Or, c'était pas quelqu'un qui portait le voile, on n'était pas dans une famille radicalisée, traditionnaliste, pas du tout. Au contraire, moi, les premières fois que j'ai les parents et la famille au téléphone, ils sont effondrés, ils comprennent pas. Ils sont totalement, entre guillemets, laïcisés, pratiquent la religion musulmane comme beaucoup de catholiques prient quand ils montent dans un avion, quoi. Mais elle a quand même aidé son cousin à rejoindre la Syrie. Donc, on arrive devant le juge d'instruction et il y a une ambiguïté de savoir si elle a pu adhérer aussi à cette idéologie ou pas. Et moi, je me bats devant le juge d'instruction, je lui dis « Mais non, regardez, on n'a rien, on a ses parents qui témoignent. » Et le juge d'instruction me dit « Non, je vous envoie devant le juge des libertés de la détention, qui est le juge qui peut décider ou non de placer quelqu'un en détention provisoire. » 2 heures plus tard, je sais que je vais me retrouver devant le juge des libertés de la détention. Et pendant ces 2 heures, là, je vois avec la famille et je dis à la famille, envoyez-moi tout ce que vous pouvez, ces bulletins de notes. Elle est jeune, hein, elle a 20 ans. Est-ce qu'elle fait du foot? Est-ce qu'elle fait de la musique? Est-ce qu'elle danse? Parce que les familles très salafistes interdisent de jouer de certains instruments, de danser. Donc tout ce qui peut éloigner son profil d'un profil radical, je leur demande. Et rien, parce que c'est une jeune fille qui passe son temps avec ses copines à fumer des clopes en bas de l'immeuble. Et in fine, comme elle est sportive, elle a un abonnement dans un club de gym qui est un club de gym mixte. Hein. Puis j'avais réussi à avoir les attestations de son entraîneur qui disait qu'elle venait, qui était un homme, qui disait qu'elle venait souvent. Bon, il y avait beaucoup de choses qui commençaient à prouver qu'on n'était pas du tout dans l'état d'esprit de quelqu'un qui suivrait des préceptes religieux. Il y a une carte Sephora qui me permet de montrer que c'est une jeune femme complètement classique et normale, entre guillemets. Mais c'est l'idée, c'est ça qu'il faut que je démontre au juge 2 heures après. C'est qu'il faut que je lui montre que on n'a pas de crainte que cette personne va partir en Syrie. Parce que c'est arrivé. Des gens qui font semblant et qui partent en Syrie 3 mois plus tard. Et finalement, devant le juge d'instruction, c'est quelques maigres éléments. Bon, elle ne va pas en détention.
15h20. Nous sommes toujours au palais de justice. Et Farida, inculpée pour terrorisme, continue de raconter son histoire. Elle en était à son arrivée en détention.
J'entends que je vais en prison. Je demande à mon avocate combien de temps ça va durer. Elle ne sait pas me répondre. Et je vis un peu les choses comme si j'étais à l'extérieur de moi-même. Et j'observe, je regarde, je réagis pas vraiment. Je me retrouve à Fleury Mérogis le lendemain, le samedi. Quand j'arrive en prison, c'est quand même, c'est bizarre à dire, mais un soulagement par rapport à la garde à vue. Le fait de ne pas avoir les menottes constamment, de ne pas être interrogé tout le temps, c'est quand même un soulagement de se dire qu'on arrive dans un endroit où on va pouvoir se poser, se doucher, manger, dormir sur un vrai lit. Donc l'arrivée se passe bien, les surveillantes sont polies. Ce qui m'étonne, c'est qu'on m'appelle madame. Je ne pensais pas qu'on serait aussi polis avec moi et qu'on me vouvoierait. Je pensais que voilà, la prison, c'était un peu plus rustre que ça. Pendant les 15 premiers jours, je suis dans un endroit qu'on appelle le quartier arrivant, où donc on m'apprend un petit peu tout ce qui est comment, le fonctionnement de la prison. Et je m'habitue un peu à être là. Et quand je passe en prison normale, et c'est là où je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour terrorisme. Je ne pensais pas qu'il y en avait déjà. Je pensais peut-être naïvement que j'étais une des seules. Et je vois qu'en fait, elles sont assez nombreuses. Peut-être pas si nombreuses finalement par rapport au total, mais assez présentes. C'est des personnes qui ont des caractères forts parfois, et donc je les entends raconter qu'elles sont parties en Syrie, en Irak. Et de là, très vite, elles me repèrent. Ce que le directeur m'avait dit, que ça arriverait. Et quand je leur annonce que je suis là aussi pour ça, pour avoir envoyé de l'argent à mon frère, voilà, elles se montrent dans leur sens rassurantes en disant « montez avec nous maintenant ». Et c'est de là que je demande au chef de la détention d'être séparé de ces personnes-là, en fait. C'est pas mon idéologie, c'est pas mon monde, et je veux absolument pas être confrontée à ces personnes. Je veux pas avoir des débats avec eux, à leur expliquer la religion, parce que ces personnes-là sont sûres d'avoir la science infuse, et que nous on se trompe. Ceux qui font l'islam, le réel islam, ils pensent qu'on se trompe. Et ce n'est même pas la peine de rentrer en débat. Et c'est ce que je disais aussi également par rapport à mon frère. J'ai pas essayé de l'en dissuader, parce que ces personnes-là, on peut pas les convaincre. Je me suis dit, bon, si on m'accuse de terrorisme, c'est que peut-être je le suis. Il faut absolument que je leur prouve que je ne le suis pas. Et si je l'ai été, si j'ai ça, c'est que je le mérite. Mais en réfléchissant et en ayant parlé avec un aumônier, donc au bout de quelques minutes, il me dit, mais vous n'avez absolument pas le profil. Donc c'est rassurant. À ce moment-là, je me dis, autant continuer sur ce chemin.
Alexandre a défendu le cas d'une mère un peu plus âgée que Farida, qui, elle, est partie d'elle-même sur zone avec ses 3 enfants en bas âge.
J'ai eu pendant un an et demi de visite en détention, et je l'ai assisté pour 5 interrogatoires devant le juge d'instruction. C'est quelqu'un que je suis allé voir vraiment beaucoup de fois, parce que c'était une personne avec laquelle il y avait une telle incompréhension ou de départ, une telle distance de départ culturel et de positionnement face à la vie, qu'il m'a fallu un moment, non pas pour lui montrer que je pouvais lui être utile, ça elle le savait, mais pour lui montrer qu'elle pouvait me faire confiance et qu'il fallait même qu'elle s'abandonne un petit peu, parce que la grosse difficulté dans son cas, c'est qu'il fallait expliquer comment on pouvait être attiré par une personne qui est en train de combattre sur zone, suffisamment pour y aller, se marier avec un combattant, et revenir au bout de 2 mois en se disant que le jeu n'en valait pas la chandelle et que c'était beaucoup trop dangereux de rester là-bas. C'était ça, sa situation, elle. C'était une femme qui avait un caractère extrêmement bien trempé. C'est pas l'image de la jeune femme docile, pas du tout. C'était quelqu'un de très très volontaire, extrêmement déterminé, quasi féministe, j'oserais dire. En tout cas, il y a l'idée de s'opposer au cliché que l'Occident a de la femme soumise et docile. On nous accuse d'être docile, ben on va leur montrer qu'on peut être tout autant impliquée, courageuse, déterminée que des hommes. Et ça, c'était présent chez elle. Une idée de résistance à l'oppression. C'est ça qui est important. Cette femme n'était pas du tout soumise à un homme. D'ailleurs, elle est là-bas, elle s'est mariée, elle a fait un mariage religieux très rapide en Syrie, et au bout d'un mois et demi, elle est revenue. Cette femme, elle a été condamnée à 7 ans de prison, avec la moitié de peine de sûreté. En plus d'avoir été incarcérée, elle avait vu ses enfants placés, son fils en bas âge qui l'avait accompagné en Syrie, et un autre de ses fils qui était avec son père, mais qui a été placé également. Et à la question de la détention s'ajoute dans ces cas-là la question de la gestion du placement des enfants. Parce que moi, j'étais son avocat dans la procédure de terrorisme, mais je ne m'occupe pas du placement des enfants. Et elle, depuis qu'elle est incarcérée, c'est-à-dire ça fait 2-3 ans, elle a dû voir 5 fois son fils de 5 ans et 7 fois son fils de 2 ans et demi. Donc ces enfants sont placés dans des familles d'accueil qui forcément pour eux sont leurs vrais parents, en tout cas leur encadrement familial. Et à la peine de prison, qui est déjà une peine lourde, hein, s'ajoute une peine supplémentaire qui est la rupture des relations familiales. Il y a des enfants plus grands qui viennent la voir en détention, qui ont des permis de visite. Et les deux plus petits qui sont placés, ils viennent quand les services de l'ASE font la demande, obtiennent les permis de visite, prennent le bus, amènent les enfants. Donc ça demande une organisation extrêmement lourde. Et surtout, on sent bien de façon indirecte que ni les services de l'ASE ni la juge des enfants estiment qu'il soit vraiment très très nécessaire de maintenir en réalité les relations avec sa mère condamnée pour terrorisme. Toutes les personnes qui sont détenues par l'armée kurde, par l'armée irakienne, seront automatiquement judiciarisées, parce qu'on a judiciarisé depuis 2015 tout le monde qui revient de Syrie. Donc femmes, hommes, combattants, mères au foyer, ils seront judiciarisés. Et les enfants qui vont revenir avec, ils vont être soit placés par l'ASE, soit confiés aux familles, avec les mêmes ambivalences. Est-ce qu'on rendra un enfant de 2-3 ans ayant vécu en Syrie, puis dans un camp de détention irakien, à une famille dont on sait qu'elle est pratiquante, rigoriste et musulmane ? Je suis pas sûr.
À suivre sur arteradio.com.
Et ce sera sur la seule base de l'intérêt de l'enfant, qui évidemment prime, et du danger présumé que l'éducation ou le milieu familial ferait courir. Mais on est loin d'un principe légal.